9h23 minutes. Dites-leur que je suis québécois. C'est le titre du livre de Mensa Emedzo, qui est originaire du Togo, immigrant au Québec, a transité par la France. C'est un enseignant. Et ce sont toutes les étapes depuis son arrivée, donc, au Québec, jusqu'à maintenant. Monsieur Emedzo, bonjour.
Bonjour et merci de l'invitation.
Fait plaisir.
Oui.
Donc, vous êtes originaire du Togo. Vous avez vécu en France. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le Canada et le Québec d'abord?
Je dois dire que j'ai choisi le Québec en premier parce que la langue française, c'est ce qui nous est commune. Donc oui, c'est pour ça que j'ai choisi le Québec, pour la langue française, pour la possibilité de vivre en français en Amérique, c'était tout.
Et votre formation, évidemment, vous avez fait des études
j'ai fait un doctorat à l'Université de Strasbourg, donc doctorat en littérature française. Avant d'arriver ici, oui.
Et donc, quitter la France, pour quelle raison? Pourquoi vous dites, finalement, on pourrait s'imaginer que vous êtes bien en France. Pourquoi choisir l'Amérique et le Québec?
Oui. Non, j'étais bien en France. J'étais en Alsace. Mes amis alsaciens étaient très sympathiques avec moi. Mais mon statut en France, c'était un statut temporaire. Donc, je vivais loin de ma femme et de ma fille. Donc, avec le processus d'immigration au Québec, on pouvait être réunis ensemble. Donc, c'était aussi l'une de mes motivations, c'est de pouvoir vivre ensemble avec ma fille et ma femme.
Vous racontez dans les, bon, toutes les étapes bureaucratiques pour obtenir les bons papiers pour venir ici. Quand vous arrivez au Québec, quelles sont vos premières impressions?
C'était très positif quand je suis arrivé au Québec. Le deuxième jour, je pense, j'étais dans le métro, je cherchais la RAMQ, j'étais perdu. Il y a une dame qui m'a, juste en voyant mon visage, dit « Je peux vous aider ?» J'ai dit oui et je lui ai dit que je cherche la RAMQ. Elle a fait un détour pour me montrer la RAMQ. Donc, au début, j'étais vraiment très bien accueilli et puis je rentre dans les cafés, on parle français, je sors, c'est en français que ça se passait. J'étais très bien impressionné et agréablement surpris de ce fait.
Mais vous dites dans le livre que des amis qui vous ont accueilli, certains vous ont mis en garde.
Oui.
En disant tu vas avoir des problèmes pour te trouver du travail, c'est pas aussi simple que tu penses, tu vas passer par des petits emplois.
Oui, c'est ça, effectivement. Quand on est de l'extérieur, avec les contacts que nous avons avec les agents d'immigration, le tableau qu'on nous peint, assez différent de ce qu'on vit en réalité quand on arrive. Et effectivement, mes amis m'ont dit, écoute, enfin, c'était pas tous les amis. Il y en a qui ne voulaient pas m'en parler. Et puis, il y a Étienne qui dit non, il faut qu'il sache la vérité parce que c'est important. C'est Étienne qui m'a peint le tableau en me disant que le taux de chômage des immigrants est 3 fois supérieur à celui des natifs. Mais encore là, je me suis dit non, ça ne sera pas moi. Je ne vais pas faire partie de ces statistiques-là. J'ai entendu le même discours quand j'étais arrivé en France, mais au bout de 2 ans, j'enseignais à l'université de Strasbourg. Donc, pour moi, c'est les autres, c'est pas moi. Donc, oui, j'étais très optimiste malgré ces avertissements-là.
Il y a quelque chose, j'ai l'impression que ce que vous décrivez, c'était vécu par beaucoup d'immigrants qui nous écoutent ce matin. L'arrivée à Montréal, bon, un peu le rêve d'aller trouver l'emploi pour lequel on a un diplôme, puis on réalise que ça n'arrivera pas tout de suite. Ça va prendre bien du temps, des années. Un logement, évidemment, comment dirais-je, présence de rats.
Dans les égouts, les conduits d'aération.
Oui, mais c'est ça. Donc, c'est un appartement délabré. Ça veut dire que les premiers petits boulots, d'abord, pour ce quand vous vous installez.
Oui, j'ai travaillé dans des usines. Je déchargeais des camions dans la zone industrielle, des endroits que je ne connaissais même pas et dont je ne me souviens même plus. Ça a été ça pour quelques mois. Donc, les petits boulots par ici, par là, on se pointait devant les agences de travail. Et puis, il y a un régisseur qui vient, qui dit « Ok, toi, viens avec moi. Les autres rentrent à la maison au final. » Donc, c'était très difficile au début par rapport à l'emploi déjà. Donc, ce n'était pas des emplois qui correspondaient à mes qualifications, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Je pensais que, comme le dit le document que j'avais lu, apprendre le Québec, ça allait prendre juste 1 an. Parce que dans ce document, il était écrit que les immigrants trouvent un emploi dans leur domaine, en moyenne, en 1 an. Donc, je me dis, je vais commencer par ici. C'était la même chose en France. Donc, si au bout d'un an, je peux me placer, c'est parfait. Je n'ai aucun souci avec ça. Mais finalement, ça a pris 5 ans pour que je puisse me placer. Et encore, c'est en Ontario que j'ai pu trouver un emploi.
vous comptez, vous racontez, pardon, le parcours, c'est-à-dire d'aller chercher l'équivalence, les permis d'enseignement, d'être reconnu officiellement comme pouvant enseigner au Québec malgré vos compétences et votre doctorat. Et là, dans le livre, vous parlez de toutes ces étapes où vous avez un emploi, vous faites de la suppléance, vous avez une demi-tâche, puis là, vous changez de commission scolaire, vous allez vers un collège privé, vous êtes dans l'Outaouais, vous traversez du côté de l'Ontario. Et je sens la déception à chaque fois. C'est-à-dire que vous dites, pourquoi l'année suivante, je ne peux pas avoir un emploi? Pourquoi je dois changer? Ça devient lourd, changer d'endroit constamment.
Oui, c'était très difficile de devoir à chaque fois recommencer à zéro. Et c'est d'autant plus décevant que mes évaluations par mes superviseurs étaient bonnes. Donc, j'avais de très bonnes évaluations. Mais malgré ça, qu'est-ce que je constate? C'est que les jeunes qui sortent de l'université, fraîchement, passent devant moi. Et c'est de ça qu'il est question. Quand j'en ai parlé, on m'a dit, c'est normal. Eux, ils sont Québécois. Et c'est mon cri de cœur qui donne le titre du livre, c'est que dites-leur que moi aussi, je suis Québécois. Une fois que nous sommes arrivés ici, on n'est pas venu pour se promener, non. On est venu pour participer à la communauté québécoise, pour participer à la francophonie surtout. Donc, moi, je me sens parfaitement Québécois, autant que ces jeunes qu'on avait pris avant moi. Donc, oui, il y a de la déception parce que je ne me sentais pas reconnu en tant que Québécois. Et c'était vraiment très difficile parce que je frappais un mur en réalité entre mes espoirs. C'est ce que j'essaie de dire à certains amis, c'est que préparez-vous. Si tu es préparé psychologiquement à avoir de la difficulté, c'est bien, la désillusion ne te frappe pas. Mais quand tu as des illusions, tu penses que oui, c'est toi qui vas choisir même les employeurs chez qui tu veux travailler.
Non, mais en même temps, ça arrive à une période dans l'histoire du Québec où il y a pénurie d'enseignants, il y a pénurie dans plein de domaines, et le taux de chômage pour les immigrants demeure quand même élevé.
Oui, c'est incompréhensible. Et la seule analyse que moi je pourrais faire sans être spécialiste, c'est peut-être les superviseurs, les gestionnaires et les employeurs ont du mal à faire confiance aux immigrants. C'est la grande question, c'est avez-vous l'expérience québécoise? Oui, je l'avais, moi, à l'époque, j'avais fait des remplacements et autres. Mais on a toujours de la difficulté à faire confiance à l'autre. Et c'est ça. Mon but derrière l'écriture de ce livre, c'est tout simplement de dire aux superviseurs, de dire aux employeurs que, au-delà des statistiques, c'est des drames que nous vivons. C'est pas juste, c'est le taux de chômage des immigrants, c'est trois fois plus élevé. Non, derrière ces trois fois plus élevé, il y a un homme qui est brisé. Il y a une femme qui a de la difficulté. Il y a des enfants qui voient leurs parents en train de dépérir, en train de devenir l'ombre d'eux-mêmes. Donc, c'est ça, c'est sensibiliser les gestionnaires, les employeurs au fait que il y a un drame qui se joue derrière les statistiques.
Notre invité, Mélissa Emezzo, donc originaire du Togo, dites-leur que je suis Québécois. Il y a un autre volet au livre, je reviendrai sur le Québec. Oui. Vous parlez de votre famille, de vos origines, de vos frères, de la vie au Togo. Il y a des moments qui sont extrêmement durs quand vous parlez à une époque d'un soulèvement, de manifestation. Oui. Et là, je vous cite de mémoire dans le livre quand vous dites que pour réprimer ces manifestations-là, les militaires savaient exactement combien de protestataires seraient tués, combien il fallait blesser de gens. C'était des assassinats commandés pour taire la révolution là, ou la contestation.
Oui, effectivement, au Togo, c'est un drame que nous vivons depuis plus de 50 ans. Nous avions un dictateur, Yadema, et quand il est décédé, c'est son fils qui a pris sa place. Et la répression a été violente. Même l'organisation de l'ONU a dit que c'est 800 personnes ont été assassinées pendant ce soulèvement-là. Mais le chiffre exact est beaucoup plus énorme que ça. Les ONG parlent de 1500 à 2000 personnes tuées dans l'indifférence totale de la communauté internationale. La France a béni, je le dis sans retour, a béni ce coup d'État en reconnaissant le gouvernement de Faure Gnassingbé qui a remplacé son père. Et la contestation vient toujours des étudiants souvent sur le campus. Et à l'époque, on s'était soulevé et c'était toujours, on tirait dans la foule, on tirait sur les étudiants. Et oui, c'est un drame que nous vivons au Togo et que je raconte aussi parce que mon frère a payé le prix fort dans cette histoire-là. Il a été emprisonné, torturé et puis relâché, mais il ne s'en est jamais relevé.
Et finalement, il est décédé.
Oui, finalement, il est décédé.
L'autre aspect qui est intéressant, c'est, vous parliez de la douleur, puis des drames qui se cachent derrière des gens qui se voient refuser des emplois. Vous, ça a été très loin. Oui. Les idées sombres vous ont envahi et vous avez posé des gestes menant pratiquement à la porte du suicide, là.
Oui, j'étais sur un pont, je voulais sauter à l'époque, mais l'image de ma fille m'a sauvé en réalité. Et depuis, je sais que je ne passerai jamais à l'acte à cause de mes enfants. Pour en revenir à ça, je n'étais pas préparé à cet échec-là. Quand j'arrivais ici, compte tenu des informations qu'on nous donne au niveau du gouvernement, au niveau des agents d'immigration, on arrive au Québec, on nous accueille à bras ouverts, il y a des emplois qui sont disponibles. En réalité, ces emplois-là sont disponibles dans les faits, sauf que ces emplois ne sont pas pour nous, malheureusement. Où c'est difficilement pour nous ces emplois. Donc entre l'illusion que j'avais, enfin l'idée que j'avais du Québec en arrivant, de la possibilité d'être employé et la réalité, parce que j'étais discriminé à Gatineau dans le milieu de l'éducation, parce que tout le monde passait avant moi alors que j'avais une belle performance, les élèves m'appréciaient, les parents m'appréciaient. Malgré ça, quand il fallait prendre une décision, c'est toujours la préférence nationale qu'on prend. Et j'étais déçu, j'étais perdu. Et c'est pas juste moi. Je vois beaucoup de mes amis qui font des dépressions. C'est pas juste mon cas. Autour de moi, il y en a beaucoup qui font des dépressions. Il y a des pères qui sont désespérés et autres. Donc, c'est un drame humain qui se cache derrière les statistiques en réalité.
Vous racontez des épisodes, évidemment, où vous avez été victime de remarques racistes, de commentaires, en milieu de travail, des étudiants aussi. Je laisserai les gens découvrir comment vous avez récupéré la situation. Mais je ne sais pas si c'est voulu, mais il semble pas que ça soit si répétitif que ça. Il y a eu des épisodes, j'imagine, mais oui. Pas si nombreux que ça, en tout cas si je me fais à votre livre.
Non, il n'y en a pas si nombreux. C'était dans une école en particulier. Dans l'école suivante, j'étais le seul noir en tant qu'enseignant, en tant qu'élève. Mais en tant qu'enseignant, les élèves n'en avaient pas de race noire. Mais je n'avais aucune difficulté là. Donc, il y a des gens qui viennent te voir et disent « Pourquoi est-ce que tu as fait des études de doctorat? Pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas faire proposer aux bénéficiaires ?» Mais quand on est venu me chercher, on ne m'a pas cherché pour que je devienne proposer aux bénéficiaires. Quand on était en France, c'était pour devenir enseignant, que c'était ça le contrat qu'on avait. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent que les immigrants doivent prendre les petits boulots tout simplement et se contenter de ça. Et peut-être que les employeurs aiment bien ça, avoir de la main-d'œuvre à rabais. Je n'en sais rien, mais c'était pas ça mes ambitions. Je crois que c'est ça aussi la difficulté. Quand tu as des ambitions, c'est beaucoup plus difficile que quand tu te dis « Ok, je prends le premier truc qui vient et puis basta ».
Qu'est-ce que vous dites à des immigrants qui sont ici depuis 6 mois, qui écoutent ce matin, depuis 1 an, depuis 2 ans?
Je dis de s'armer de patience, parce que c'est souvent une question de rencontre. Un jour, tu vas tomber sur la bonne personne qui fait confiance à ton talent, qui fait confiance à tes aptitudes. Et là, les portes s'ouvrent grandement devant toi. Ça a été mon cas quand j'ai rencontré ce monsieur à la commission, au conseil scolaire en Ontario. J'étais là au bout de 4 mois et boum, j'avais ma permanence. Alors que j'avais passé 4 ans à Gatineau sans avoir de
courrier,
à me promener sans permanence. Et ce monsieur voulait absolument me garder dans son école. C'est extraordinaire. Vous allez le découvrir dans le livre pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. C'est extraordinaire. Il ne me connaissait pas du tout. C'est tout simplement compte tenu de mon travail qu'il voulait que je reste avec lui. Donc, c'est une question de rencontre. Armez-vous de patience, n'abandonnez pas, ça va aller.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Monsieur Mensa Emedzo. Donc, dites-leur que je suis Québécois, c'est publié aux éditions de l'Homme. 9h37, on vient après.
Merci.